Vous écoutez France Culture.
Antoine Bozieux, à vous d'ouvrir le bal. D'abord, je ne sais pas, réaction, désaccord, accord avec l'analyse impitoyable de Brice Couturier. Antoine Bozieux.
Alors, bonjour. Donc, moi, je partage le constat sur le fait qu'il est nécessaire d'engager une réforme un peu plus structurelle de notre système de retraite. On a fait des réformes ces dernières années, essentiellement pour assurer un équilibre financier, un équilibre comptable, parce que c'était l'urgence, au moins pouvoir assurer la stabilité financière du système. Mais il y a un deuxième objectif d'une réforme d'un système de retraite, c'est de lui donner de la cohérence, lui donner une certaine transparence pour que, à la fois pour les salariés et aussi pour ceux qui pilotent le système de retraite, on puisse avoir les éléments pour faire en sorte qu'on puisse garantir à long terme les droits qui ont été acquis dans le système de retraite. Ce qui est dommage à chaque réforme, c'est qu'on dit s'il y a urgence, donc on est obligé de prendre des mesures rapidement, donc on ne peut pas faire une réforme d'ampleur. Donc on dit, je suis désolé, j'aimerais bien faire cette grande réforme.
Une réforme qui serait quoi, pérenne sur plusieurs dizaines d'années.
C'est une réforme qui compte
en dizaines d'années quand on parle de l'action.
Au moins en plusieurs années. C'est-à-dire que généralement, les réformes qu'on a préparées, qu'on a annoncées ces dernières années, c'était des réformes où on dit, non, en quelques mois, on doit avoir une réforme qui soit effective. En quelques mois, on ne peut pas préparer une grande réforme qui redonne de la cohérence, qui fasse converger les systèmes. Donc il faut plusieurs années.
Après tout, c'est ce que dit le Premier ministre. Hein. Il dit, voyez, nous, la différence avec les autres gouvernements, c'est que nous travaillons en concertation et que nous faisons un travail d'élaboration et de concertation.
Qu'on annonçait au début de l'année qu'on ferait une réforme qui devait être effective au 1er janvier 2014, on savait déjà qu'on ne pourrait pas faire autre chose qu'essayer de modifier les paramètres existants. Il n'est pas possible, et même ici, il aurait été totalement absurde d'annoncer une grande réforme qui aurait été faite en quelques mois, préparée d'une façon beaucoup trop rapide. Ce qui serait dommage, c'est une fois qu'on a fait des réformes dites paramétriques pour essayer de redonner de l'équilibre au système, qu'on commence tout de suite à se dire, donnons-nous 2 ans pour préparer avec les travaux du Conseil d'orientation des retraites, commençons à savoir comment on pourrait avancer vers plus de convergence.
C'est contradictoire avec le sentiment d'urgence. Si on se dit que c'est urgent mais qu'on attend 2 ans...
Non mais si on se dit qu'on ne fait pas la réforme, si on ne commence pas tout de suite dans 2 ans, on ne sera toujours pas capable de faire cette réforme.
Alors autour de la table, Stéphane Rosès, et puis Thierry Pech évidemment, et c'est Brice.
Ça a été dit tout à l'heure par M. Hadass Lebel, confirmé...
Qui se tient prudemment en retrait, vous avez remarqué le président du corps.
Oui, parce qu'on rentre dans la période...
Pas prudemment,
mais en retrait quand même.
Pour le moment, j'écoute, nous verrons tout à l'heure.
Donc on comprend qu'effectivement, les gouvernants, alors avec des curseurs un peu différents, légèrement différents, mais enfin qui convergent, ont opté pour une stratégie. Je crois que M. Hadass Lebel utilisait le terme de, je ne sais pas si c'était glissement progressif, quelque chose comme ça. Plutôt qu'effectivement, la grande réforme, et dont on imagine bien, ça a été dit par Marc Voinchet, que ça veut dire que finalement, on considère la politique sociale, économique, financière comme un tout, et ça va avec la réforme fiscale. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un élément qui risque de rendre difficile cette grande réforme, qui est finalement une bonne nouvelle des travaux du corps et que pointe Yannick Moreau, c'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Hadass Lebel, c'est qu'en 2035, pour des raisons démographiques, le système, mécaniquement, on peut penser qu'il sera sauvé. Alors c'est très important parce que les Français... Il s'infléchira. C'est très important parce que eux, les Français, ne le croient pas. Donc est-ce que du coup, le politique ne va pas être incité à continuer dans cette stratégie progressive, est-ce que c'est possible parce que derrière, il y a la peur du blocage du pays. Il y a eu 95. Marc Voinchet dit le sondage ce matin dans l'Humanité. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que ce sondage dans l'Humanité dit une plus grande inquiétude, mais en même temps, le soutien à l'égard de la journée de demain est un des plus faibles historiquement des mouvements sociaux. Voilà. Donc est-ce qu'on risque pas d'aller toujours dans cette voie du glissement progressif ?
Antoine Bozieux.
Donc moi, je ne crois pas que cette bonne nouvelle, c'est-à-dire que simplement à partir de 2035, on n'a plus l'effet cumulé de l'augmentation de l'espérance de vie et des baby-boomers. Ce qui est aujourd'hui la période difficile, simplement pour l'équilibre des systèmes, c'est qu'on est dans une période d'une vingtaine d'années où on a ces deux effets qui se cumulent. À partir de 2035, on n'a plus l'effet du baby-boom, on n'a plus que l'effet de l'augmentation de l'espérance de vie. Ça ne veut pas dire que tout va être tout rose. Toutes les projections pour l'équilibre à long terme du système de retraite reposent quand même sur des scénarios de croissance forts et sur un mécanisme automatique, entre guillemets, d'équilibre du système, où si on a suffisamment de croissance, on va faire baisser les taux de remplacement effectif des pensions de retraite, parce que la croissance étant plus forte, en fait, depuis la réforme de 93, on dévalorise les salaires de référence qui sont sur la base des pensions. C'est un peu technique, mais c'est l'explication derrière laquelle, pourquoi notre système est dépendant de la croissance. On a besoin de suffisamment de croissance pour pouvoir compenser l'augmentation de l'espérance de vie et ensuite équilibrer le système. Si la croissance est plus faible, on va revoir des déficits réapparaître et ce qui était un équilibre à long terme assuré ne va pas du tout être assuré. Or ça, c'est un défaut de conception du système. Un bon système de retraite ne devrait pas être dépendant de la croissance.
Je voudrais vous faire écouter le deuxième interview de Bruno Palier par Antoine Beauchamp. Bruno Palier, directeur de recherche au CNRS et au Centre d'études européennes de Sciences Po. Selon lui, le système français des retraites peut paraître avantageux par rapport à d'autres systèmes européens, mais à bien y regarder, il y pointe de nombreux défauts qui affleurent. Bruno Palier au micro d'Antoine Beauchamp.
Nous avons un des systèmes les plus généreux en matière de retraite. Donc, de ce point de vue-là, c'est sans doute le meilleur système de retraite. En revanche, du point de vue de la justice, entre à la fois retraités, on peut se poser des questions, puisqu'il y a un écart assez important entre le niveau des retraites des femmes et le niveau des retraites des hommes. Il y a aussi un écart qui n'est pas bien compensé par les systèmes entre la durée de retraite versée à un cadre et la durée de retraite versée à un ouvrier. Et en ce sens, le compte pénibilité pourra probablement réduire un peu cet écart. Et puis surtout, on est, comme beaucoup de systèmes européens de retraite, dans une situation de déséquilibre entre les retraites actuellement versées aux générations nées dans l'après-guerre et puis les retraites qui seront par la suite versées aux générations suivantes. Et puis surtout, par rapport au destin des plus jeunes aujourd'hui en France, qui non seulement ont de grandes difficultés pour entrer sur le marché du travail, pour certains d'entre eux en tout cas, les moins qualifiés, et qui d'autre part verront le moment auquel ils peuvent partir en retraite se reculer de plus en plus.
Antoine Beauzieu, un commentaire sur Bruno Palier ?
Oui, moi je suis complètement d'accord sur le constat. Et le constat, on pourrait d'ailleurs rajouter aux éléments que Bruno Palier a ajoutés, tout un fait d'incohérence, d'inégalité dans le système qui ont été très bien documentés. Il suffit de lire les rapports du corps. Là encore, je vous renvoie sur ces documents existent. Il y a un consensus sur le fait qu'il y a une multiplicité d'incohérences et d'inégalités cachées, qu'on compense globalement, mais qui ne devraient pas exister dans un système bien conçu. Ouais.
Mais j'avoue que moi je dois être un peu buté du coup, mais s'il y a consensus à ce point-là, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à réformer dans un sens qui serait du coup consensuel à peu près pour tout le monde? C'est ça que j'arrive toujours pas à saisir, moi, mais je dois pas.
Qu'on comprend, ce que nous disent nos invités, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour faire une réforme structurelle. En Suède, je crois, il a fallu 10 ans, donc il faut se mettre tout de suite autour de la table pour espérer avoir un système différent structurellement dans 10 ans. Bon, mais moi, je voulais vous poser une question. À force de faire des choix conjoncturels, des choix paramétriques, leur addition finit par faire des choix structurels. Et il y a notamment, vous dites, il y a trois pédales, Monsieur Dasslebel, le niveau des pensions, le niveau des cotisations, la durée de cotisation. Mais il y a tout de même une pédale sur laquelle ça fait un moment qu'on n'a pas appuyé, c'est le niveau des pensions. Et on s'attendait à ce que le gouvernement, cette fois-ci, avec la CSG et d'autres outils, fasse payer un peu plus les retraités. Parce que jusqu'ici, ça fait bien maintenant 15 ans que toutes les réformes des retraites sont des réformes qui font payer les nouveaux entrants dans le système de retraite et pas ceux qui y sont. Est-ce qu'il n'y a pas là tout de même un choix de société structurel qu'on pourrait discuter ?
Alors, je pense qu'il y a effectivement un choix. Il y a vraiment c'est une très bonne question. Il y a vraiment un choix structurel sur dans quelle mesure faire peser sur les différentes finalement générations qui composent le pays ce poids du financement de notre système de retraite. Alors, d'une certaine façon, je vais prêcher. Enfin, pour les plus jeunes, l'augmentation de l'espérance de vie va d'abord bénéficier aux plus jeunes générations. Donc, c'est normal que les plus jeunes générations payent en quelque sorte le fait qu'ils auront une espérance de vie en retraite plus élevée. Ce qui n'est pas la même chose, c'est la période dans laquelle nous sommes, avec le déficit qui est lié à l'arrivée à la retraite des générations du baby-boom, où là, c'est plutôt les générations du baby-boom qui sont beaucoup plus responsables sur le fait qu'on n'a pas fait suffisamment de réserves, augmenté les cotisations quand ils étaient actifs pour financer. Donc là, il y a une certaine légitimité à faire en sorte que ces générations-là participent.
Et si on vous a bien compris, le vrai problème d'aujourd'hui, c'est la bosse du baby-boom.
Aujourd'hui, c'est la bosse du baby-boom qui est
principalement
responsable. Oui. Moi, il y a encore une nuance à apporter à ce que vient de dire Thierry Pech. Pour la première fois, cette réforme, à la différence de celles qui l'ont précédée, fait payer les retraités aussi, puisqu'on estime qu'environ 2,7 milliards vont être pris dans la poche des retraités sous deux formes. D'abord, on le sait, les parents de familles nombreuses verront la fiscalisation de leur fameux bonus de pension réduit. Enfin, maintenant, ça sera fiscalisé. Ça va rapporter 1,3 milliard, donc un mauvais coup d'ailleurs pour les parents de familles nombreuses. Et puis surtout, l'inflation ne sera plus compensée, comme on sait, le 1er janvier, mais le 1er octobre, quelque chose comme ça. Ouais. Enfin bref, ça fera là aussi. Donc pour la première fois, on s'attaque un petit peu aussi aux retraités et pas seulement aux cotisants. Et c'est comme une différence de logique par rapport effectivement aux réformes précédentes.
Raphaël Hadas-Lebel, vous voulez intervenir ?
Oui, je voulais dire deux choses. Premièrement, effectivement, le choix respectif des différents leviers, c'est vraiment un choix politique. Et donc, M. Couturier a donné quelques éléments concernant l'utilisation du levier niveau des pensions. C'est une utilisation indirecte, mais c'est certain que le levier est utilisé dans le projet de réforme. Moi, je le constate. Mais je voulais aller un petit peu sur la dialectique entre réformes dites paramétriques, c'est-à-dire réformes par ajustement successif, par changement des paramètres, et réformes plus structurelles. Vous posiez la question de savoir pourquoi ne le fait-on pas ? Je crois que la réponse, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui accord majoritaire pour s'engager dans cette réforme. Le Conseil d'orientation des retraites, dans un rapport de janvier 2010, a analysé de manière extrêmement détaillée les avantages respectifs de trois systèmes. Le système actuel, où la retraite dépend des annuités de cotisation, le système de points, et le système des comptes notionnels utilisés en Suède. Nous avons fait cette analyse des avantages, des inconvénients. Nous avons dit aussi, chose importante, que naturellement ça entraînerait un changement de l'architecture du système de retraite. Et surtout, si on passait à un autre système, ça nécessite une longue période de transition. Car même en Suède, on a mis à peu près 10 ans pour négocier la réforme. Et ensuite, pour la mettre en œuvre, on a mis de longues années. C'est-à-dire qu'il y a une période transitoire où une partie des travailleurs continue de percevoir leur retraite sur la base du système antérieur. Donc là, la vraie difficulté, c'est que quand vous regardez les rapports des forces politiques et syndicales, il n'y a pas beaucoup d'organisations syndicales qui seraient disposées à accepter d'engager un processus de négociation sur ce sujet. Les syndicats ont été intéressés par notre rapport, mais ils n'ont pas souscrit à ses conclusions. Le corps a fait le rapport, a donné des éléments qu'il faudra approfondir, mais il n'y a pas de consensus. Il y a seulement la CFDT qui soit à peu près disposée à regarder. C'est un peu insuffisant aux yeux du gouvernement, apparemment, pour s'engager dans cette réforme structurelle.
Antoine Mosio.
Pour rebondir sur les propos de Lebel, je ne suis pas... Enfin, le rapport du COR sur les différentes réformes structurelles proposait simplement d'analyser quelques grands types de systèmes.
C'est ce que nous avait demandé le Parlement.
Voilà, non, absolument.
Le Parlement nous a passé une commande, on a répondu à la commande.
Aujourd'hui, on n'a pas de proposition détaillée sur laquelle on puisse discuter. C'est-à-dire que
on ne l'a pas demandé.
Non, mais c'est important. C'est-à-dire que je trouve tout à fait normal que des syndicats puissent dire nous, on ne veut pas s'engager vers quelque chose où on n'a aucune précision pour savoir si est-ce qu'en fait la réforme structurelle, on va supprimer tous les avantages non contributifs. Est-ce que finalement on va rendre le système totalement non redistributif. Est-ce que il y a beaucoup d'inconnus. Donc
on a dit le contraire. On a même dit que dans un système de points, on peut très bien avoir des mesures de solidarité.
Je partage
qui
totalement
se traduit simplement
point de vue,
par l'obtention de points supplémentaires sans contribution.
Je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir débattre de possibles réformes plus structurelles, il faut qu'on ait des propositions précises sur lesquelles on puisse effectivement discuter et voir quels impacts elles peuvent avoir. Et effectivement,
je rappelle juste qu'il y avait la proposition qu'avait défendue Antoine Bosio ici présent avec Thomas Piketty il y a 2-3 ans.
Nous avons même auditionné.
Alors, Stéphane Rosès.
Est-ce qu'un des éléments, d'explication du paradoxe sur accord de tous, sur le constat difficulté de se projeter dans l'avenir et sur des propositions concrètes, ne vient pas du fait que la retraite est l'objet, mais le vrai sujet qui anime les partenaires sociaux, c'est le travail. Et tout le système est gagé sur la croissance et le salariat. Est-ce qu'il n'y a pas une donnée qui peut ouvrir d'arriver à ce champ-là, qui fait que le dossier des retraites est d'une symbolique très forte, parce que, je parle sous votre contrôle, je crois que 40% des salariés n'arrivent pas à l'âge de la retraite. Donc le sujet, c'est quel type de travail dans l'entreprise qui permette qu'on se projette vers un allongement, d'autant que le débat qui agite les économistes aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va retrouver les niveaux de croissance d'autrefois ? Et donc là, ça appelle évidemment un élargissement du sujet. La retraite n'est que l'envers du cœur du système qui est le salariat et le type de travail dans l'entreprise. De sorte que le fait de partir enfin vite, vite, vite à la retraite ne soit pas « je sors de cette course du rhum terrible qu'est la vie, le stress, l'inquiétude sociale et le travail doux ». Ouais. Évidemment, ça plaide pour remettre à plat une pensée stratégique du contrat social, de l'activité, du salariat, parce que la croissance ne va plus nous le permettre.
Antoine Bozio.
Alors, je partage l'idée du fait que l'évolution de l'emploi, d'une façon générale, va être cruciale pour la façon dont l'équilibre du système de retraite va pouvoir se maintenir. C'est les cotisations qui sont basées sur les salaires. Et donc, dans une période d'augmentation du chômage, ça crée des déficits dans le système de retraite. Et à long terme, les projections qui sont celles du COR, on espère que le chômage va disparaître et que le retour au plein emploi va avoir lieu. Donc, c'est quelque chose de très important. Après, je ne crois pas qu'il faut donner trop de poids simplement à ce facteur-là pour essayer de penser à comment on conçoit un système de retraite. Et ce qu'on veut, un système de retraite, c'est qu'il donne des garanties claires aux salariés qui, lorsqu'ils acquièrent des droits, puissent se dire « j'acquire des droits qui me seront garantis ». Ces droits seront honorés, les promesses seront tenues. Mais pour faire ça, il faut construire un système dont les promesses soient tenables, qui prennent en compte ce qu'on sait aujourd'hui sur les évolutions de l'espérance de vie et de la démographie, et qui puissent donner en toute transparence le fait que quand je paye des cotisations, j'acquiers des droits. Lorsque j'ai des chocs qui m'arrivent sur un certain nombre de chocs dans la carrière, ces chocs seront compensés grâce à la solidarité nationale. Et ça, quel que soit le parcours professionnel que j'ai pu avoir. Et c'est ce facteur de transparence et de cohérence qui aujourd'hui manque à notre système de retraite.
Il est trop 35 compliqué. Régimes.
Il est trop
35
compliqué
régimes, une pouvoir... opacité totale.
Je pense que le système est trop compliqué pour savoir même, lorsqu'on modifie un de ces paramètres, quel va être l'effet. Pour nous, il nous faut simuler avec des ordinateurs et des programmes assez compliqués chaque fois qu'on fait une modification pour savoir qui va être touché. Ce n'est pas quelque chose... c'est vraiment... Et le tout à chacun ne peut pas faire ce genre de simulation. Et je crois qu'on a besoin de redonner un petit peu de cohérence et de transparence à notre système. C'est ça qui en fera sa solidité à long terme.
Raphaël Adas-Lebel ?
Oui, je crois que là-dessus, je partage tout à fait l'analyse de M. Bozio. C'est-à-dire que la force du système français, c'est qu'aujourd'hui, il permet de donner des retraites à un niveau globalement élevé à l'ensemble des gens qui partent en pension. Je vous rappelle quand même que 14% du PIB est consacré en France au système de retraite. C'est énorme et c'est beaucoup plus que dans la plupart des autres pays du monde, d'Europe en particulier.
Un peu de comparatisme d'ailleurs, je vous laisse finir, mais est-ce qu'il faut comparer pour savoir si... La question va vous paraître simplicité affligeante, Thierry Pêche, mais est-ce qu'il faut comparer pour savoir si on a raison de se plaindre ou pas par rapport aux systèmes européens? Si on prend juste, par exemple, l'âge légal de départ à la retraite. En France, donc, 62 ans si nombre d'annuités est requis et 67 pour le taux plein. En Allemagne, c'est 63 ans avec des cotes, si 35 annuités et 67 ans pour 2030. En Espagne, c'est 65 ans et un mois, puis ça sera 67 ans en 2027. Au Royaume-Uni, c'est 65 ans et 60 ans pour les femmes, puis ce sera 68 ans pour la génération des Britanniques, née en 78.
C'est une partie de l'écosystème. Un système de retraite, c'est un écosystème. Il y a ce paramètre-là, mais il y a aussi la durée de cotisation, le niveau des cotisations. Donc, si vous comparez les pays
européens... La durée de cotisation en Allemagne, c'est 45 ans. En France, c'est 41.
Alors, justement, il y a des dérogations jusqu'à une période récente. On pouvait sortir au bout de 40 ans, 41 ans. Enfin, c'est très, très compliqué. Aux Pays-Bas, il y a des dérogations encore plus sophistiquées. Donc, il ne faut pas croire. Chacun a inventé des itinéraires bis pour échapper au couperet apparemment très brutal de son système. Mais ce que je voudrais dire sur les 14% de points de PIB que représentent les retraites, c'est vrai et en même temps, il ne faut pas fétichiser ce chiffre. Parce que si on compare avec d'autres pays, par exemple avec la Grande-Bretagne, où il y a une part de cotisation d'épargne privée pour assurer ses retraites, pour comparer les systèmes, il faut intégrer ces coûts-là aussi. Parce que ce sont quand même des placements qui vont générer des revenus, qui vont revenir dans le circuit économique. Donc ce chiffre-là ne veut pas dire grand-chose. En fait, on a un système système qui socialise beaucoup cette protection qu'est la retraite, et d'autres systèmes la socialisent moins. Mais il faudrait additionner les coûts privés et les coûts publics pour avoir une comparaison, rationnelle.
Quelques chiffres. Ce qui compte, à mon avis, c'est l'âge effectif moyen de cessation d'activité. Oui. C'est celui-là qui est important.
Tout à fait.
Et là, on voit effectivement qu'en France, on part effectivement à la retraite à 60,3 ans pour les hommes et 59,8 pour les femmes.
C'est
des chiffres qui datent de 2012. Effectivement, ça a pu s'allonger. Mais on voit que l'Allemagne, à côté, c'est 62,6 deux ans plus tard pour les hommes et 61,9 deux ans plus tard pour les femmes. Et je ne vous parle pas de la Suède. On donne toujours en modèle. C'est là-bas, c'est 64,7 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. 5 ans, donc les Suédois travaillent 5 ans plus tard que nous. Ça explique aussi peut-être pourquoi leur régime est équilibré. Mais je voudrais revenir à la question politique. Souvenez-vous qu'on nous dit, la réforme suédoise de 1998, elle a été précédée, vous nous disiez, par 10 ans de débat. Mais enfin, souvenons-nous que le livre blanc sur les retraites de Michel Rocard, il date de 1991. Rocard nous disait, la question des retraites, c'est une bombe à retardement susceptible de faire tomber plusieurs gouvernements. Eh bien, je pose la question, en 22 ans, combien de gouvernements de droite et de gauche se sont succédés et pourquoi n'avons-nous eu affaire qu'à des réformes dites paramétriques et jamais à cette réforme structurelle qu'on attend toujours et qui rassurerait tout le monde? Pourquoi ce manque de courage politique de nos
question,
gouvernants?
J'imagine que Raphaël Adassebel ne va pas vouloir répondre, ne peut pas s'engager, ne peut pas répondre, mais Antoine Bozio, oui.
Je pense que finalement le choix de ne pas faire une grande réforme structurelle, c'est plutôt parce que par commodité. C'était peut-être le cas au début, mais aujourd'hui, les réformes paramétriques peuvent être massives. La réforme de Balladur, une petite réforme paramétrique, a été massive en termes de... Pour le coup, on parlait de niveau des pensions. La réforme de Balladur, en fait, baisser en désindexant les pensions, en désindexant les salaires portés au compte, a eu un effet massif sur la diminution des droits de pension. On peut faire des réformes paramétriques qui sont très fortes. Le problème, c'est que pour pouvoir lancer une réforme structurelle qui redonne de la transparence, il faut être transparent. Or, l'avantage des réformes dites paramétriques et du bouger-le, c'est qu'on peut faire les choses de façon un peu plus subtile et moins bien transparente. On vous dit, on a fait la réforme de Balladur.
C'est des manipulations,
en disant,
alors.
Regardez, on a sauvé le système, on n'a rien touché à rien. On n'a pas touché l'âge de la retraite, on n'a pas touché les pensions, on a fait des petites modifications de la formule. Et en fait, si vous voulez faire la même chose de façon structurelle, il faut dire de façon transparente, regardez, à tel âge, vous aurez droit à tel droit. Et ça oblige à prendre des positions beaucoup plus nettes. Et c'est ça que les gouvernements n'ont pas forcément envie de s'engager dans un tel processus.
Stéphane Rosé, c'est une toute petite question, on va arriver au terme du débat.
Oui, est-ce que vous ne croyez pas quand même que derrière la question des systèmes de retraite, il y a une question de culture sociale? Chez nous, le politique prévaut quand même sur les échanges entre partenaires sociaux. Et donc, forcément, il y a une responsabilité du politique quant à sa difficulté à proposer un pacte social, non?
C'est Antoine possible, Bozio. Mais moi je ne crois pas du tout aux explications culturalistes. On dit voilà, nous Français, on n'est pas capable de faire une grande réforme structurelle, on n'est pas les Suédois, c'est les Nordiques, protestants du Nord qui sont capables de faire les choses très transparentes. Moi je ne crois pas du tout à ces genres d'explications. Je pense que les Français sont capables, sont rationnels, sont capables au contraire, ont une très grande volonté d'avoir des politiques publiques, d'avoir un débat public pour pouvoir avoir des politiques qui obtiennent les objectifs qu'ils souhaitent. Moi je suis absolument confiant qu'on est capable de réaliser une grande réforme structurelle des retraites en France.
Merci Antoine Bozio d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle, vous êtes directeur de l'Institut des politiques publiques. Et merci à vous Raphaël Adassebel, président du Conseil d'orientation des retraites.
Merci.
Un mot d'actualité tout de même, le Conseil d'État, c'est un autre sujet, mais vous êtes concerné, puisque vous avez piloté la nouvelle fameuse convention collective
Penser à la scène de l'avare. Vous savez, est-ce à votre cocher, monsieur, ou votre cuisinier que vous appelez? Alors, j'étais cocher, maintenant, je deviens cuisinier. Allez-y.
Vous nous faites une lecture de texte, même si j'imagine que vous devez être extrêmement déçu, parce qu'au fond, on a appris que le Conseil d'État a ordonné la suspension partielle de la convention collective du 19 janvier 2012, l'annexe dérogatoire relative aux films dont le budget est inférieur à 2,5 millions d'euros. Elle n'entrera pas en vigueur comme prévu le 1er octobre. Alors, Michel Sapin a commenté, le ministère du Travail, c'est la première fois en France qu'une convention collective collective est partiellement suspendue et non pas entièrement. Grosso modo, il y a un doute, hein, dit le Conseil d'État, qui justifie l'urgence de la suspension sur l'idée de la représentativité de ceux qui ont signé cette future convention collective du cinéma. C'est très complexe.
C'est un sujet extrêmement complexe. Ouais. Alors, je vais vous dire, j'ai été chargé en avril dernier par le gouvernement d'une mission de médiation sur un sujet que je savais extrêmement conflictuel. C'est peut-être pour ça qu'on m'avait donné cette mission. Il s'agissait donc de trouver une sorte de compromis au sujet de cette convention collective, dont certains producteurs qui n'avaient pas signé la convention disaient qu'elle portait atteinte...
Elle met en péril les films à petit budget. Voilà, exactement.
J'ai été chargé d'une part de faire des études d'impact. Et donc j'ai fait une étude d'impact avec l'aide de directeurs de production, dont c'est le métier, sur quel est l'effet de cette convention sur les grands, moyens et petits films. J'ai rendu mes conclusions sur cette étude d'impact qui faisait apparaître effectivement qu'il y avait quelques problèmes pour les petits films. Malheureusement, certaines organisations n'ont pas été satisfaites de mes conclusions et ont souhaité que ma mission s'arrête. Du coup, on est allé à une autre procédure qui est des discussions au sein de la commission paritaire. Moi, j'en ai pris acte et donc ça a abouti à cette convention que le Conseil d'État effectivement a décidé de suspendre partiellement. Donc moi, ce que je souhaite, puisque je n'ai pas pu mener à bien jusqu'au bout ma mission de médiation, j'avais des idées là-dessus, bien que les partenaires en présence, dans le cadre des commissions paritaires, essaient de trouver ce compromis qui est dans l'intérêt de l'ensemble du cinéma et aussi d'assurer que le droit du travail soit respecté. Il y a ces deux missions, faire respecter le droit du travail et quand même sauvegarder les films à économie fragile. J'espère qu'ils se trouveront un compromis entre eux, mais là aussi, on a la même difficulté, la difficulté à partenir à des compromis.
Alors, si un terrain d'entente, le dossier sera clos, à moins que le Conseil d'État, disait le Monde de samedi, à moins que le Conseil d'État, qui va exhiber l'affaire au fond, décide d'annuler la convention collective dans son entier.
Mais ça sera dans quelques mois, je pense.
Dans un film Hitchcock, c'est un suspense.